BFM Stratégie avec Sandra Gandoin sur BFM Business.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de BFM Stratégie en partenariat avec le BCG, le Boston Consulting Group. On est ravis de vous retrouver. Le grand public est assez familier de la réalité virtuelle qui consiste à créer un monde parallèle, fictif, qui n'a aucun lien avec notre monde réel. C'est un concept qui est largement utilisé dans le cinéma, les jeux vidéo, car il permet de s'immerger totalement dans un univers imaginaire. Aujourd'hui, on va parler de l'étape d'après, le spatial computing, informatique spatiale en français. Cette fois, il s'agit d'enrichir le monde réel avec des éléments virtuels et de les faire interagir. C'est évidemment une avancée très significative, pleine de promesses pour de nombreux secteurs. Mais on va vous expliquer comment ça fonctionne, ce spatial computing, quelles sont les applications concrètes, comment les entreprises peuvent-elles s'en saisir. On en parle aujourd'hui avec Martine Bartel. Bonjour Martine.
Bonjour Sandra.
Directeur associé au BCG. C'est l'entité tech du BCG. Vous êtes spécialiste de la transformation digitale des entreprises. Merci d'être dans ce numéro. Martine, expliquez-nous tout d'abord ce que c'est que le spatial computing. Qu'est-ce que c'est et quelle est la différence avec la réalité virtuelle?
Oui, Sandra. Comme vous l'avez dit, le concept de la réalité virtuelle, c'est un concept assez connu déjà par le grand public. Mais ce concept a un grand défaut ou un inconvénient, que c'est une réalité qui est complètement séparée de la vie réelle. Donc, c'est un monde séparé et on ne peut pas agir dans la réalité réelle avec cette dimension virtuelle. Mais pour arriver au spatial computing ou l'informatique spatiale, il fallait passer quelques étapes. Donc, après la réalité virtuelle, il y avait ce qu'on appelait l'augmented reality, la réalité augmentée, qui consistait à faire intégrer des objets virtuels dans le monde réel, mais sans pouvoir interagir avec ces objets-là. Puis, il y avait la réalité mixte, qui rendait possible d'interagir avec ces objets virtuels dans la vraie vie. Et puis, on appelle la prochaine étape, c'était l'engagement, la réalité étendue.
Donc,
il y a beaucoup
oui.
de noms spécifiques ici, qui, d'une certaine manière, rassemblaient les trois technologies précédentes. Et c'est là où l'informatique spatiale rentre dans le jeu. Elle se base sur le principe de la réalité étendue et elle se compose de toutes les technologies qui sont nécessaires pour l'interaction entre l'homme et la machine dans un espace trois-dimensionnel. Et c'est important de savoir que ce n'est pas seulement une technologie, c'est une combinaison de plusieurs technologies. Donc l'IA, l'IA générative, l'Internet des objets, l'évolution du réseau de 5G. Il y a même quelque chose comme le GPS dans cette réalité, dans la possibilité pour les objets virtuels de s'identifier, de se localiser dans la vie réelle. Donc tous ces technologies ensemble arrivent à deux choses principalement. Premièrement, de faire insérer des objets de la réalité virtuelle dans la réalité et de pouvoir interagir avec eux. Et deuxièmement, de pouvoir transitionner d'une réalité à l'autre, ce qui est assez fascinant. Donc, pour répondre à votre question, Sandra, la réalité virtuelle est seulement le début et la réalité de l'informatique spatiale va bien au-delà. Elle fusionne le monde réel avec le monde virtuel.
Oui, c'est intéressant ce concept de fusion. Effectivement, on voit bien l'évolution progressive. Alors, cette question, pourquoi on en parle maintenant? Qu'est-ce qui a favorisé son émergence?
Bon, là, pour répondre à votre question, Sandra, il faut rentrer un peu dans l'histoire de l'interaction entre l'ordinateur et l'homme, donc entre l'homme et la machine, et cette relation a commencé, bien sûr, avec le début de l'ordinateur, puis s'est délocalisée avec l'émergence des téléphones portables, puis s'est amplifiée avec des casques virtuels. C'était Facebook, ou maintenant Meta, qui, en 2016, ont lancé la première casque virtuelle, Oculus. Mais la raison pourquoi le sujet est tellement dans les news d'aujourd'hui, c'est aussi dû au lancement de Apple Vision Pro, très récemment. Donc, on pourrait même dire le premier ordinateur spatial qui transforme tout l'environnement de l'utilisateur dans un espace interactif qu'on peut contrôler avec sa voix, avec les yeux, donc avec le regard et avec des mouvements. On peut même courir dans cet univers comme ils transposent des éléments virtuels dans le monde physique. Moi, je viens de retourner là de Boston d'une conférence Edge que BCG a organisée et c'est fascinant de voir toutes les applications de la Apple Vision Pro. Mais plus profondément, il y a plusieurs tendances qui se sont rassemblées pour amener l'informatique spatiale au point qu'elle est aujourd'hui. Premièrement, une demande accélérée, certainement après Covid, avec une demande pour des réalités virtuelles plus réelles, d'une certaine manière. Deuxièmement, les avancées technologiques que je viens de mentionner avant. Et finalement, des outils de support de plus en plus adaptés pour la vie quotidienne, pour utiliser tous les jours.
Évolution technologique, on l'a vu, évolution de contexte, effectivement. C'est important de le rappeler. Alors, quelles sont les applications concrètes de cette technologie, Martine? Quel est son potentiel économique?
Bon, le potentiel est énorme, mais déjà, j'aimerais parler de quelques applications. Donc, ce qui est très bien connu dans le grand public, ce sont toutes les applications autour du divertissement, donc le cinéma, les jeux vidéo, du sport, etc., etc. Mais il y a aussi de plus en plus d'applications, je dirais, dans la consommation, donc l'achat des produits, donc des essais virtuels. Je vous donne quelques exemples. Sandra, par exemple, Warby Parker rend possible d'essayer des lunettes avec des essayages virtuels. Nike a fait la même chose pour des chaussures. Ou Ikea rend possible pour ses utilisateurs d'imaginer des nouveaux meubles dans leur appartement du futur. Donc ça, ce sont tous des applications, je dirais, un peu obvious qu'on connaît, mais il y a aussi des innovations dans d'autres champs qui sont assez étonnants. Par exemple, dans la médecine, où le spatial computing rend possible pour les médecins de s'entraîner sur des opérations très compliquées, plus sur des objets humains, mais sur des objets virtuels. Et par exemple, la start-up Medtronic a pu réduire le temps de formation sur certaines opérations très compliquées de quelques semaines à quelques heures.
Mais qu'est-ce que ça va donner dans les années qui viennent, par exemple, d'ici 2030?
Donc, le potentiel est énorme. Oui. Selon nos recherches chez BCG, on évalue le potentiel jusqu'à l'année 2030 à 138 milliards de dollars. Ah. 138 milliards de dollars, ce qui représente un taux de croissance annuel moyen de 38%. Et ce marché est composé à la fois du software, du hardware et du service, mais aussi du B2B et du B2C.
Donc ce potentiel va forcément intéresser les entreprises. La question maintenant, c'est de savoir comment elles peuvent en tirer parti, Martine, et qu'est-ce que ça peut leur apporter?
Exactement. Donc pour les entreprises, il est nécessaire d'évaluer plusieurs champs d'application, je dirais. Et chez BCG, on a notamment identifié 4 champs d'application qui sont, de notre avis, très importants. Premièrement, l'engagement entre des marques et le consommateur, par exemple dans le marketing ou dans le processus d'achat. Je parlais tout à l'heure des exemples de Warby Parker, etc. Mais je vous donne un autre exemple. L'Oréal, par exemple, a lancé des essais virtuels pour quelques produits de maquillage et le résultat est une hausse de taux de conversion de ces produits de 67%, ce qui est quand même énorme. Un deuxième champ d'application, c'est l'innovation, dont la réduction des coûts et des temps d'innovation à travers des prototypes virtuels. Par exemple, le constructeur automobile allemand, d'où je viens, a pu réduire le temps de lancement des nouveaux modèles de 12 mois grâce aux technologies, nouvelles technologiques. Troisièmement, la formation, réduction du coût, du temps et quelquefois même aussi des risques liés à la formation. Par exemple, Toyota a pu réduire le temps de formation pour les employés dans les usines de 50%. Et finalement, la collaboration dans des espaces virtuels dans le monde entier.
Ça fait gagner du temps, ça fait gagner des coûts, ça fait gagner du risque, vous l'avez dit. Oui. Vous m'avez convaincu. Alors comment on s'y prend justement lorsqu'on veut adopter le spatial computing dans son organisation? Je suis une entreprise, par où je commence?
Oui, donc il y a beaucoup de clients qui nous demandent exactement cette question, Sandra. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Quel est vraiment le use case, le cas d'usage le plus pertinent? Quelles capacités il faut acquérir? Comment on peut motiver le personnel de travailler avec ce genre de technologie? Chez BCG, on a identifié principalement 4 étapes pour y arriver. Ça commence avec l'identification des cas d'usage. Donc, par exemple, en regardant tous les domaines que je viens de mentionner, donc la formation, la collaboration, l'innovation, et de vraiment voir quel cas d'usage promet le plus de potentiel de gain au moindre coût. Mais après de se lancer dans l'aventure, il faut élaborer ce qu'on appelle une preuve de concept, donc de faire des tests dans la réalité, de prendre un cas d'usage et de faire un test à petite échelle, je dirais, pour vraiment valider la faisabilité technique, pour valider la réaction des utilisateurs et pouvoir un niveau de confiance plus élevé dans l'impact pour l'entreprise. Donc ça, c'est la deuxième étape. Puis la troisième étape, il s'agit de construire une feuille de route, c'est-à-dire vraiment de déterminer les objectifs, déterminer les ressources qu'on a besoin pour vraiment mettre cette technologie en motion, mais aussi d'établir des objectifs et de voir si toutes les conditions de réussite sont disponibles. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut passer à l'échelle. Oui. Et là, chez BCG, on parle souvent de la formule magique 10%, 20%, 70%. Donc, 10% du succès pour une transformation vraiment à l'échelle sont dépendants de la software, donc des logiciels du code qui est nécessaire. 20% du succès sont liés à l'architecture technologique, donc la hardware, mais ce qui est le plus important, les 70%, c'est l'humain. Donc, est-ce que les conditions sont là pour la réussite d'un tel projet? Est-ce qu'il y a la résistance dans l'entreprise pour ce genre de technologie? Est-ce que les gens sont assez formés? Est-ce qu'il y a les ressources nécessaires? Est-ce qu'il y a des moyens, pas seulement pour introduire ce genre de technologie, mais aussi après pour la faire évoluer? Donc, en résumant, il y a 3 questions principalement. Quelle est la valeur ajoutée? Deuxièmement, comment ces nouvelles technologies s'intègrent dans les systèmes existants? Et troisièmement, est-ce qu'il y a une capacité, une culture, une volonté d'innovation au sein de l'entreprise?
Avancée technologique quasi révolutionnaire, hein, que ce spatial computing, sujet passionnant, en tout cas les entreprises qui en saisissent le potentiel gagneront, c'est sûr, un avantage stratégique déterminant. Vous nous avez absolument convaincu, merci Martine Bartel, directeur associé au BCGX et spécialiste de la transformation digitale des entreprises. Merci d'avoir été dans ce numéro de BFM Stratégie. On se retrouve très vite sur BFM Business pour un nouveau numéro. À très bientôt.
BFM Stratégie sur BFM Business.